RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet.
Bonsoir Roselyne.
Notre invité ce soir, Éric Coquerel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinateur politique du Parti de gauche, donc soutien de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Alors on vit bien sûr une campagne folle où rien n'est impossible et où tout s'invente jour après jour. Vendredi, François Fillon était laissé pour mort, ressuscité dimanche. Et lundi, un bras d'honneur au cacique des Républicains. J'y suis, j'y reste. Fillon a fait de la résistance, pour l'instant il l'a gagné. Est-ce qu'à vos yeux, vous dites aujourd'hui, Fillon, c'est un révolutionnaire?
Non, c'est le symptôme d'une période et d'un moment où, pour la première fois, on assiste en direct et pendant l'élection présidentielle, à la fois une décomposition, une recomposition de la vie politique. Je crois qu'il est le symptôme de ça. Il est le symptôme, quelque part, d'une Ve République à bout de souffle, c'est-à-dire le monde de l'argent, le monde de la politique, le monde des intérêts privés, tout ça se mélange. Il y a eu l'affaire Cahuzac, il y a M. Fillon maintenant qui est empêtré dans affaire après affaire. Il y a Mme Le Pen qu'il ne faudrait pas oublier non plus au niveau des affaires.
Bien sûr.
Tout ça donne un climat malsain. Moi, je trouve qu'on a une drôle de campagne comme il y a eu un peu la drôle de guerre, c'est-à-dire qui n'arrive pas à démarrer. Dont les Français, moi je les comprends, je suis le premier à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est devant l'écran, on est abasourdi.
Ça c'est la décomposition, mais sur la recomposition c'est quoi?
Et bien la recomposition, ça peut être justement le fait d'avoir un espèce de grand parti démocrate à l'américaine, un centre à l'américaine, vous voyez, autour de M. Macron, qui se redessine, qui paraît être le candidat du système, il faut le dire, qui est soutenu par beaucoup de grands médias, qui est soutenu même par le MEDEF, qui est soutenu, qui en appelle à un électorat de droite, de gauche, enfin bon, qui est attrape tout, mais dont le programme est très libéral, par contre, on en parlera peut-être au niveau des mesures. Et puis, d'un autre côté, M. Fillon, en se maintenant coûte que coûte, non seulement, j'allais dire, joue un très mauvais tour à son camp, parce que je ne vois pas comment un candidat aussi fragilisé peut accéder au second tour, mais pire, il permet, j'allais dire, en alimentant sa campagne déjà pendant la primaire de contenu très à droite sur le plan des idées, sur le plan sociétal, sur le plan libéral, et là maintenant finalement en appelant à fragiliser la République sur une espèce de vision complotiste des choses, il prépare quelque part une possible migration des électeurs des Républicains vers Mme Le Pen qui pourrait apparaître comme Monsieur Trump, on pourrait avoir une espèce de bipartie américaine.
Donc
c'est pour ça qu'il est urgent de montrer qu'il y a une troisième voie. C'est ce dont je vais essayer de vous convaincre avec Jean-Luc Mélenchon.
En attendant, quel impact a eu cette tragi-comédie de la droite sur votre candidat, sur Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'elle ne l'a pas rendu parfaitement inaudible?
Non.
Pas que lui, d'ailleurs.
On arrive quand même à se faire entendre. On entend notamment les appels pour notre marche du 18 mars. Bon, enfin, ça, c'est vrai que ce climat fait qu'on ne parle pas du fond, on ne parle pas des programmes.
Il a parlé de prise en otage de cette élection.
On est pris en otage par Monsieur Fillon et même Madame Le Pen. Je rappelle qu'il recourt au même procédé. Elle dit même qu'elle qui n'a pas de mots assez durs par rapport au Parlement européen se protège derrière le Parlement européen pour ne pas aller à la convocation des juges. Donc, on a une situation qui, effectivement, est très malsaine. Cette campagne n'arrive pas à démarrer. Alors, et donc, ceux qui sont les plus pénalisés, c'est pas tant ceux qui, comme M. Macron, n'ont toujours pas de programme, enfin, où viennent juste d'avoir
un programme.
Il y a depuis deux semaines. Soulagé. D'ailleurs, on assiste que tous les vendredis, il a un programme et que les médias le suivent comme si c'était à chevaux une nouveauté. Enfin, passons.
Écoutez, on l'attendait.
Mais le pénalisé, c'est celui qui, depuis un an, a un programme cohérent. Qui peut être critiqué ou pas comme on veut, qui a même un budget que nous avons présenté il y a maintenant trois semaines très très détaillé. Et donc nous on aspire qu'à une chose, c'est que vite cette campagne commence, que des débats contradictoires aient lieu, parce que c'est là où je pense qu'on peut marquer des points.
On va parler bien sûr de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, de votre programme, on va ne faire à peu près que ça. J'aimerais juste qu'on reste quand même un petit moment sur l'affaire Fillon, parce que vous l'avez dit, c'est en train de métastaser partout, et on ne parle effectivement que de ça. Encore encore une révélation là du canard enchaîné, décidément, sur un prêt, cette fois de 50 000 euros qui aurait été fait par Marc de la Charrière, donc le patron de la revue Des Deux Mondes. Et effectivement, François Fillon dit j'ai oublié de le déclarer, un prêt sans intérêt. D'abord, votre réaction là-dessus, est-ce qu'on va vivre effectivement au fil de ce feuilletonnage?
Ça continue,
ça risque.
Ça continue, oui.
Monsieur Lacharrière, c'est la personne à qui il a remis la Légion d'honneur, je crois,
hein, déjà, oui,
qui était censé avoir employé sa femme pendant un an et demi à 100 000 euros. Bon, c'est une de ses affaires.
Enfin, c'est présumé.
Oui, tout est présumé. Ce qui n'est pas présumé, quand même, ce qu'il a mis au départ, c'est que...
Qu'il n'ait rien fait.
Pénélope Fillon a bien travaillé pour à peu près et ses enfants pour 900 000 euros en ne se souvenant pas de leur emploi. Ce qui n'est pas présumé, je vous le rappelle également, qui n'est pas répréhensible par la loi, mais qui est répréhensible politiquement, c'est le fait que M. Fillon avait une société avec les anciens dirigeants d'AXA, alors même qu'il propose une privatisation de la sécurité sociale qui va avantager des sociétés comme AXA.
Ouais.
Il y a là des... M. Fillon, quelque part, je vous le dis, il est le symptôme d'un système. Il serait une erreur, à mon avis, de considérer que c'est un cas unique. Alors, je ne dis pas non plus, parce que ça serait injuste par rapport à des milliers d'élus, et notamment, je pense, aux maires, etc., qui font un travail formidable, qui sont, eux, honnêtes. Et il ne faut pas généraliser. Mais M. Fillon, quelque part, c'est le symptôme de gens qui, finalement, pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Pendant des années, ils ont vécu dans un système, dans ce système qui fait que la politique, ce n'est plus un engagement, mais c'est une carrière, un métier, et où l'oligarchie financière et politique se mélangent sans arrêt. Et voilà, il en est le représentant. Alors, c'est quand même paradoxal qu'en même temps, il en appelle aujourd'hui au peuple face aux juges.
À votre sens, il n'a pas sa place dans la course à la présidentielle?
Bien sûr que non. Donc, je vous le dis, il n'a pas sa place. Et je pense même que, encore une fois, je vous le dis, je pense que il joue un très mauvais tour au courant républicain de droite qui existe et qu'il est en train de dissoudre sur place. Enfin, c'est ça, et de radicaliser.
Quand vous dites qu'il en appelle au peuple, mais vous aussi vous en appelez au peuple, est-ce que
vous avez remarqué que nous on n'est pas un produit du système et que nous n'avons pas de casserole derrière nous? Bah écoutez, vous pouvez le vérifier.
On est un produit du système.
Non, nous ne sommes pas un produit du système. Nous nous condamnons à la
Cinquième République. Mais qu'est-ce que vous entendez par système d'abord?
Le système, c'est le fait que le système, à un moment donné, c'est vous êtes un homme politique qui est censé défendre l'intérêt général. Or, il se trouve que vous avez des jetons dans des conseils d'administration, que finalement vos lois avantagent des entreprises, des sociétés, des actionnaires avec lesquels vous êtes étroitement liés d'un point de vue économique. Ça veut dire que vous êtes comme Monsieur Macron par exemple, très lié à des grands groupes de presse qui sont dirigés aujourd'hui non pas par des journalistes ou la plupart du temps des patrons qui ont une vision transversale de leur métier. Je pense par exemple à des grands groupes de
presse. C'est des patrons de presse qui travaillent pour l'État. C'est ça qui.
Mais non. Le système, aujourd'hui, c'est une oligarchie financière et politique qui se mêle étroitement au bénéfice des uns et des autres et qui, finalement, défendent le même système depuis des années où on voit que la plupart des richesses nationales ont été captées par, justement, par la spéculation, par la bourse et tout ça. Et ça forme quand même, justement, Pinson et Charlot l'ont très bien traduit dans leur livre, les deux sociologues, ça forme, quelque part, un monde des riches. Bon, et on est très loin aujourd'hui, je prends M. Fillon, on est très loin d'une Cinquième République à la naissance, qui avait, j'allais dire, un problème dès le départ, qui avait un vice dès le départ, qui était cette espèce de monarchie présidentielle. Mais au moins, De Gaulle, il séparait en deux ses factures d'électricité quand il s'agissait de
sa vie. Donc, les purs, c'est vous. Les purs, c'est Mélenchon. Les autres, c'est le système.
Je dis une chose, c'est qu'on ne peut pas faire une comparaison entre ceux qui, depuis des années, de manière cohérente, dénoncent ce système, dénoncent la captation des richesses par le capitalisme financiarisé, dénoncent le fait que l'intérêt général est souvent dévoyé, dénoncent le fait que l'austérité, au nom de l'austérité, on casse l'État social.
Oui.
Il est évident qu'à partir du moment où on dénonce ça, et y compris d'ailleurs... en étant indépendant par rapport aux deux grands partis qui se partagent le pouvoir depuis des années, vous me permettrez de dire qu'effectivement, je pense que nous n'avons pas de comparaison.
Et juste une dernière question avant que je redonne la parole à Véronique. Donc, est-ce que votre modèle aujourd'hui, c'est par exemple le Venezuela, comme Jean-Luc Mélenchon avait une admiration pour Chavez, tout nationaliser et contraindre les entreprises, on produit plus, on connaît le résultat aujourd'hui. Est-ce que votre modèle aujourd'hui, c'est le Venezuela?
Non, il n'y a pas de modèle, parce que derrière le modèle, ça voudrait dire quelque part qu'on essaye d'appliquer, des choses dans des pays qui ont des conditions de vie économiques totalement différentes à une situation qui est la nôtre en France. Par contre, il y a effectivement des politiques qui nous inspirent. Et la politique de M. Chavez, pendant des années, qui a consisté à dire que il n'était plus possible que la rente pétrolière serve seulement quelques-uns, comme ça a été des dizaines d'années au Venezuela, mais alimente la santé, permette l'éducation, permette
les gens de mourir. Le pétrole, d'accord, mais après on a tout nationalisé.
Toutes les années Chavez. Et sinon, vous ne comprendrez pas pourquoi M. Chavez a été réélu à chaque fois, y compris dans les référendums révocatoires qui ont été... une bonne chose, il y aurait fait un révocatoire. Vous voyez que le Venezuela,
on pourrait s'en inspirer,
il les a gagnés.
Donc,
je pense que oui, dans les pays d'Amérique latine, il y a eu des révolutions citoyennes qui ont posé la question, de l'indépendance nationale vis-à-vis des États-Unis. Vous savez qu'en Amérique latine, c'est une des choses qui façonne la vie politique. Et deux, qui propose une autre répartition des richesses.
Donc vous êtes resté très chaviste
Par rapport à ce qu'a fait Chavez. Chavez, je ne sais pas, je me fie toujours des mots.
Le résultat aujourd'hui du Venezuela, vous dites, c'est une bonne chose.
Mais aujourd'hui, le résultat vous me parlez de Chavez, donc je
parle. C'est la résultante. D'accord.
Je constate simplement que
sa politique.
Oui, mais je constate aujourd'hui que au Venezuela, il y a eu des défauts économiques qui ont été faits, notamment le fait très certainement de ne pas avoir suffisamment utilisé justement la rente pétrolière pour convertir une économie, notamment sur de manière écologiquement soutenable, etc. Ça, c'est des critiques qu'on peut faire, mais ce sont aussi des pays.
Mais c'est pas le pétrole. Après, on a tout nationalisé, les magasins, le papier toilette, tout.
Ah, mais nationalisme. Non, tout n'est pas nationalisé, et nationaliser n'est pas un gros mot quand c'est nécessaire. Ce n'est pas ça qui caractérise ou pas qu'une économie soit mauvaise. On a nationalisé en 80 les banques, je pense que c'était nécessaire. À la libération, on a beaucoup nationalisé en France, c'était nécessaire. Donc nationaliser n'est pas un gros mot, si c'est ce que vous voulez me faire dire.
Alors, on va reparler
Véronique, qui fait un peu l'actualité ce soir encore, mais il faut dire on est mardi soir, donc le canard enchaîné est sorti. Sur le plan politique, face au jusque bouti de François Fillon, Alain Juppé a donc renoncé à être le fameux plan B qu'on a longtemps cherché. C'est un peu amer. D'ailleurs, hier matin, qu'il a jeté l'éponge en dénonçant un véritable gâchis. On l'écoute.
Quel gâchis. Comme l'a montré la manifestation d'hier au Trocadéro, le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination.
Alors on vient d'entendre Juppé, Éric Coquerel, de qui Fillon est-il le candidat ? Est-ce que c'est le candidat d'une droite radicalisée, comme l'a évoqué hier Alain Juppé ? En clair, est-ce que Fillon fait le jeu du Front National aujourd'hui ?
En tout cas, il radicalise son électorat, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il a... nous, on pense que, vous savez, les moments de campagne, c'est des moments d'éducation populaire. Donc, vous transmettez des messages aussi, vous indiquez des choses. Là, il est clair que par rapport à son électorat, il l'a fait déjà pendant la primaire sur des thèmes sociétaux où il a flatté un côté très réactionnaire.
Par les sciences communes,
etc. D'un point de vue économique, il a fait une campagne très libérale, ultra libérale. On voit d'ailleurs que c'est ça qui, quand même, désarçonne, c'est que là, il a commencé à aller un petit peu dans un sens, disons, un petit peu plus souverainiste, de reprendre certaines intonations. Donc, il y a quand même là-dedans quelque chose qui est difficile à suivre. Et puis là, surtout, moi, ce qui m'a... Bon, il y a aussi il reprend un peu les mots de Le Pen par rapport à la question d'un espèce de racisme anti-musulman, même s'il le fait de manière plus soft et plus, j'allais dire, civilisée. Mais enfin,
c'est un Le Pen soft, François Fillon.
C'est quelqu'un qui peut... Non, je ne sais pas si le personnage peut évoluer vers ça. Puis en plus, c'est pas mon problème. Mais je pense malheureusement qu'il peut assurer, on l'a déjà observé sur plusieurs élections récentes, il peut assurer le fait que de manière décomplexée, une partie de son électorat, rompe les digues républicaine qui jusqu'à maintenant existait et finalement on arrive à voter Le Pen au deuxième tour, donc c'est ça qui m'inquiète, y compris, je vous le dis, dans cette façon d'en appeler contre les juges, d'en appeler de laisser penser que finalement ça serait lui aussi le système, enfin le système à bon dos dans ces cas-là qui s'en prend à lui, alors que Ce sont des gens, je vous rappelle, qui demandent la tolérance zéro face à des syndicalistes qu'on lève à 5h du matin parce qu'il y a une chemise déchirée, face à des jeunes qui manifestent. Et là, tout d'un coup, sur des histoires quand même très graves, on parle de centaines de milliers d'euros, on parle de gens qui, au lieu de servir l'État, se sont servis dans les caisses de l'État. C'est de ça dont il est question. Et bien là, tout d'un coup, ça serait une justice insupportable. Bon, c'est
menace,
pas bien ce que
menace pour la République, carrément.
Comment ?
C'est une menace contre la République.
Ah, je trouve qu'il fragilise les principes républicains.
Est-ce que c'est cette droite qu'on a vue au Trocadéro, vous dites c'est une nouvelle droite qui émerge dans le fond c'était quoi une majorité silencieuse, enfin à droite une majorité silencieuse, enfin une majorité à droite silencieuse, une majorité en tout cas, une radicalisation qui a gagné la primaire à 4 millions d'électeurs, donc déjà, comme la majorité d'un camp on va dire.
Mais déjà comme maintenant on reprend les images des organisateurs, on sait qu'il y a eu des photos qui ont été prises et qui montraient qu'on était très très loin des 200 000 et qu'on était plutôt sur quelques milliers de personnes. Donc moi j'estime, c'est une des caractéristiques de ce qui s'est passé. J'estime qu'en réalité c'était plutôt un flop par rapport à ce qu'il voulait. Je vous rappelle qu'au début il annonçait 300 000 personnes.
En tout cas il a claqué le bec à ceux de...
Voilà. La mobilisation
est là. Je continue à dire que certains médias l'ont aidé là-dessus avec une image où on a relayé largement. C'est un choix, vous savez, vous faites des plans de place, vous pouvez faire des plans de place montrant que la place est à moitié remplie.
D'ailleurs, c'est arrivé à Jean-Luc Mélenchon avec TF1, où on croyait qu'il y avait beaucoup de monde derrière lui, et il y avait trois Pékins s'est avéré que...
Oui, mais en l'occurrence, c'était avant les manifestations. Enfin, justement, la démonstration inverse, que les médias peuvent à certains moments servir ou desservir des candidats.
Et vous en
avez
servi aussi.
Là, en l'occurrence, je trouve qu'ils ont servi M. Fillon. Donc, je ne sais pas si c'est majoritaire. En tout cas, il y a une partie de l'électorat de droite, voilà, qui jusqu'à maintenant suivait les Républicains et qu'il est en train de radicaliser. Enfin, je ne fais que répéter ce qu'on voit et qu'on constate tous les jours.
Pour revenir à ce que disait Véronique il y a un instant, sur Alain Juppé, est-ce que vous considérez dans le fond qu'il y a de la grandeur aujourd'hui à dire non, je n'irai pas parce que il n'a pas dit le mot, mais c'est Mélenchon d'ailleurs qui a théorisé le dégagisme. On n'a pas voté pour moi aux primaires, donc dans le fond, j'y vais pas. Ou vous trouvez... en tant que, comme politique, qu'un homme politique se doit d'aller, doit donner son corps, non pas à la science, mais à la politique.
Moi, je pense que Juppé a estimé que dans cette élection, parce que...
Dans ces cas-là, vaut mieux tourner les talons.
Il était trop tard et que, quelque part, il se reconnaissait finalement pas dans le projet et dans la manière de faire campagne de M. Fillon. Voilà, je pense que, en l'occurrence, moi, j'ai rien à dire sur sa déclaration. Je la trouve assez juste. Mais moi, je ne suis pas seulement commentateur de ce que fait la droite.
Dans cette sortie de Juppé à ce moment précis.
Enfin, je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a maintenant un paysage qui commence à se... Alors, on verra bien si les nouvelles histoires du canard finissent par vraiment les fragiliser. Mais enfin, apparemment, il a l'air décidé à aller coûte que coûte, même au risque d'ailleurs d'être un candidat mis en examen, ce qui serait, ce qui ruinerait définitivement ses chances, en tout cas handicapé dès le départ. Et donc, finalement, moi, je voudrais quand même dire qu'on a un projet un paysage qui est en train de se dessiner. On a Madame Le Pen avec sa règle brune. Sa règle brune, c'est la constitutionnalisation de la préférence nationale, dont on ne dit pas assez à quel point c'est un projet fondamentalement anti-républicain, qui donne une vision racialiste du pays, qui est même pas de remonter avant la Révolution française. Elle est pour le droit du sang, on remonte même avant François Ier.
C'est le projet le plus dangereux.
Voilà, c'est le projet le plus dangereux. Le seul moment dans la vie politique française où on a adopté un projet qui déclare la guerre à 11 millions de personnes.
Et pourquoi il serait plus dangereux que vous? Que votre propre
avant-garde. Parce que vous pensez que notre projet est un projet de haine, de division, de guerre contre les immigrés, contre les enfants d'immigrés dans ce pays. Vous avez l'impression que notre projet est un projet où on déclare, on a l'impression que...
On passera un petit sonore tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon.
Donc nous, c'est tout l'inverse. On a un projet humaniste et un projet qui croit justement dans les valeurs universelles et républicaines de la France. On pense que c'est ça qui fait la grandeur de la France. Et que quand elle est sur ces bases-là, elle en est que plus forte, et non pas sur le fait de dénoncer l'autre, le pauvre, de proposer aux pauvres de se diviser entre eux parce que l'un a une couleur de peau différente, de proposer aux travailleurs de se diviser entre eux parce que l'un a une couleur de peau différente, etc. Donc le projet de Madame Le Pen, c'est ce que j'appelle la règle brune. Il y a la règle d'or qui est incarnée par Monsieur Macron. C'est
vous les appelez le bon, la brute et le truand. Alors le truand, c'est Fillon. La brute, c'est Marine Le Pen.
Et le bon, vous avez mis entre guillemets, bien évidemment, parce que je pense que le vrai bon de l'affaire, c'est Jean-Luc Mélenchon, Madame Vie. Mais le bon choisi par le système, c'est Monsieur Macron, oui. Ça très clairement. Il prolonge finalement les quinquennats de Monsieur Sarkozy Hollande en pire. Il aggrave la loi travail. Il continue à proposer 60 milliards de dépenses publiques en moins, dont 11 milliards aux collectivités territoriales. Il explique que vis-à-vis des collectivités territoriales, il proposera un contrat.
On va revenir sur le programme de Macron.
D'accord, mais je finis juste qu'il propose, comme ça, je n'y reviendrai pas, qu'il propose un contrat où l'argent sera mis en échange. C'est vraiment un système qui est la poursuite de ce qui vient d'échouer pendant 10 ans.
On va terminer cette première partie là-dessus. On y revient juste après le flash d'info dans la deuxième partie de Mardi Politique.
RFI et France 24 présentent
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique avec Véronique Rigolet, notre invitée ce soir, et Éric Coquerel, donc coordinateur politique du Parti de Gauche et donc soutien de Jean-Luc Mélenchon. On va parler du programme. Un petit mot, parce qu'on était sur cette... avant de nous quitter pour cette première partie, on parlait de Marine Le Pen. Vous aviez raison à un moment, vous disiez, dans le fond, elle savoure son impunité vis-à-vis des affaires, peut-être plus pour très longtemps, mais en tout cas pour l'instant, elle savoure cette impunité. Elle refuse de se présenter aux convocations des juges et disqualifie certains fonctionnaires dans ces meetings. On va le voir dans quelques instants. Vous écrivez, donc je le disais dans votre blog, vous dites c'est la brute xénophobe. N'empêche, elle est étatiste comme Mélenchon, elle n'aime pas l'Europe comme Mélenchon, elle trouve beaucoup de qualité à Poutine comme Mélenchon, et puis... Je vous propose d'écouter ce que déclarait Jean-Luc Mélenchon le 5 juillet 2016. Il y a quelques accents un peu populistes, on l'écoute.
Je crois que l'Europe qui a été construite, c'est une Europe de la violence sociale. Comme nous le voyons dans chaque pays, chaque fois qu'arrive un travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. Une Europe de la violence politique, comme nous l'avons vu appliquée à Chypre et à la Grèce. Et une Europe de la violence guerrière, comme celle que vous êtes en train de préparer face à la Russie.
Voilà, vole son pain aux travailleurs. Est-ce que ça vous trouble pas tout de même ce discours où ces deux extrêmes se rejoignent et on dit toujours que traditionnellement l'extrême gauche, elle est internationaliste.
Oui, mais on est internationaliste totalement.
Ah oui, pas là. Hein.
Si vous d'accord. écoutez tout l'extrait, pas seulement le petit bout qui en a été pris. Non, mais je vous le dis, parce que je vais vous le resituer. Jean-Luc Mélenchon faisait un discours où je vous fais remarquer qu'il parle du peuple grec, dans l'extrait que vous venez de parler, qui est soumis à une politique d'austérité absolument terrible, sans aucun résultat, sauf que de l'affamer de plus en plus. Il parle des dangers de guerre. Donc le moins qu'on peut dire, c'est que sa vision n'est pas une vision guerrière et une vision... non solidaire de l'Union européenne.
Mais il y a des...
Sur les directives des travailleurs détachés, je vais y venir, j'ai bien compris. Sur la directive des travailleurs détachés, nous sommes contre la directive des travailleurs détachés.
Comme Marine
qui justement... Attendez, excusez-moi. Je vais vous dire un truc. Dans les années 30, il y avait un parti qui s'appelait National Socialiste. Socialiste comme la SFIO. Pour autant, ils étaient étatistes et tout ce que vous voulez. Pour autant, les objectifs de société ne sont pas les mêmes. D'un côté, il y a un objectif humaniste, de fraternité. De l'autre côté, il y a un objectif racial, xénophobe, etc. Et ben voilà exactement ce qui nous sépare du Front National. C'est pas parce qu'à un moment donné, nous utilisons des mots pour caractériser quelque chose. C'est pas parce que, par exemple, si le ciel est bleu, nous allons dire ensemble que le ciel est bleu, que nous avons les mêmes objectifs politiques. Les objectifs de Marine Le Pen, c'est un affrontement généralisé en France entre des populations pour le plus grand bénéfice d'un système qu'elle ne remet pas en question. Elle ne l'a jamais mis en question. Elle ne remet pas en question le système capitaliste, le système financiarisé, etc. Vous pouvez regarder dans le moindre de ses écrits. Donc, si vous voulez, cette comparaison ne tient pas. La question des directives des travailleurs détachés, d'accord, c'est le fait d'avoir ce que nous disons. Ce n'est pas tourné contre le fait que des gens viennent continuer à travailler dans ce pays. La preuve, c'est que contrairement à Mme Le Pen, nous demandons la régularisation des travailleurs sans papier. Nous ne demandons pas qu'ils soient éjectés de ce pays.
Non, mais vous êtes, voyez, vous voulez bien attendre.
Mais par contre, nous demandons que tout le monde.
Vous voulez pas les travailleurs polonais?
Non,
du plombier polonais, vous voulez bien de l'Africain, mais
je demande que les travailleurs polonais Je demande que les travailleurs européens, je demande que les travailleurs sans papier qui sont ici et les travailleurs sans papier le demandent, soient tous sur le même contrat de travail français. Ce que demande la CGT, ce que demandent les syndicats. Voilà exactement ce que nous demandons. Parce qu'il n'est pas possible de faire un dumping interne dans un pays. C'est la directive des travailleurs détachés. Et effectivement, ce qu'a voulu dire Jean-Luc Mélenchon, c'est que si vous faites la directive des travailleurs détachés, au bout d'un moment, en réalité, vous créez un affrontement entre les travailleurs, puisque certains viennent dans le pays à leur corps défendant. Ils viennent chercher du travail. Ils viennent dans notre pays et font en sorte que le système fait qu'il y a un nivellement par le bas de tous les salaires, de tous les acquis sociaux.
Donc c'était une vision humaniste et on s'est trompé.
C'est une vision humaniste. Ça veut dire que nous demandons le même contrat de travail. C'est la manière dont on utilise, où à chaque fois on nous dit, le Front National commence à parler de social, donc finalement vous êtes comme le Front National. Alors ça c'est extraordinaire, ça fait aussi longtemps que l'extrême droite, dans les années 30, elle n'a fait que cela, utilise et prend des mots de la gauche pour, camoufler un projet qui est un projet...
Ils vous ont un peu pillé votre programme.
Oui, enfin...
Si on
ne fait pas son travail de journaliste, on va dire ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Excusez-moi, mais peut-être que vous allez me le dire. Vous allez me dire, Mme Le Pen est pour augmenter les salaires. Non, vous allez peut-être me le faire, non?
Mais vous l'attendiez, voilà, je ne voudrais pas vous décevoir, mais vous le faites tout
Mme
seul.
Mme Le Pen, d'ailleurs, comme M. Macron vous fait remarquer, elle propose de prendre ce qu'on appelle, nous, le salaire socialisé, c'est-à-dire la part des cotisations sociales, cotisations patronales, et de le mettre dans l'autre poche du salarié, les revenus nets. Donc, elle propose en réalité de voler à côté le salarié pour faire mine de l'enrichir de l'autre. Ça n'a aucun rapport avec l'augmentation des salaires que nous proposons. Voilà, ça, c'est le genre d'exemple où je voudrais vous montrer que nous avons non seulement des outils différents, des moyens différents. La preuve, c'est que nous nous attaquons au capital non investi. Les profits, elles, ne s'y attaquent pas. Vous pouvez écouter concrètement, je veux dire. Et en plus de ça, nous avons des objectifs radicalement différents.
Donc vous, c'est mieux.
Bah, écoutez, on va essayer.
Oui, humaniste.
Je pense que j'ai cru comprendre que quand vous nous compariez avec Mme Le Pen, c'était pas avec une appréciation très positive du programme de Mme Le Pen. Enfin, j'ai cru comprendre ça. Mais... Donc oui, c'est mieux. C'est un programme humaniste. C'est un programme de partage des richesses. C'est un programme qui défend l'intérêt général, le bien commun avec la planification écologique.
La sortie de l'euro.
Alors, venons-en. Je pense que c'est une erreur, déjà, de considérer, je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, parce que ça aussi, c'est un discours qu'on entend, alors là, pour le coup, de Monsieur Hollande, qui l'a ressorti dans le monde, c'est une erreur de considérer que ce qui caractérise Madame Le Pen, c'est la sortie de l'euro. C'est la banaliser. C'est banaliser son programme, qui pour moi est un programme d'extrême droite extrêmement dangereux. Donc, c'est pas ça, je vous les ai dit, qu'il a caractérisé.
La sortie de l'euro ne serait pas suffisamment dangereuse pour l'économie française.
Et une mise en tension de la société au service d'une vision pour moi, qui n'est pas républicaine. Mais je vais venir sur la sortie de l'euro. Nous, ce que nous proposons, et nous n'avons pas varié là-dessus, mais c'est important, c'est le plan A, plan B. Oui. C'est-à-dire que soit on sort des traités tous ensemble, et la France met tout son poids dans les négociations, parce qu'on ne continuera pas l'Union européenne si la France, qui est la deuxième puissance en Europe, dit « on ne veut pas continuer comme ça ». Vous avez vu que M. Hollande a un plan A avec, il se réunit à une Europe de la défense où on prétend reconstruire l'Europe à travers des
Est-ce que comme elle, sur les quatre souverainetés, par exemple?
Comment?
Est-ce que comme elle, vous dites, faut renégocier sur les quatre souverainetés?
Il faut renégocier le traité sur la question du fait que l'Union européenne ne vaut que si elle est un progrès humain pour tous les peuples qui la composent. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir des grands plans de relance pour la transition énergétique. Il faut pouvoir avoir une banque centrale européenne qui prête directement aux États pour que ce ne soit pas la finance qui, fasse des chantage permanent et comme vis-à-vis de la Grèce, l'Espagne et autres aux États. La Grèce n'est pas sauvée.
Votre ami Tsipras,
la seule chose qu'elle est en train de rembourser avec une politique absolument terrible d'austérité, c'est les intérêts de ses créanciers. Elle n'est pas capable de s'en sortir. Donc, je pense que pour s'en sortir, il faudrait que la banque centrale fasse comme toutes les banques centrales ailleurs dans le monde. On est la seule qui ne le fasse pas, prête directement aux États. Et par exemple, je vais vous donner un exemple de ce que pourrait être un nouveau traité. Ça serait d'instituer ce qu'on appelle le principe de non-régression. C'est une règle simple. Tant qu'une directive ou une règle européenne n'est pas supérieure à la règle nationale en matière sociale, environnementale, elle ne s'applique
pas. C'est
de
la subsidiarité, ça existe déjà, non ?
C'est une subsidiarité en positif qui permettrait que rien ne s'applique s'il est inférieur aux réglementations sociales du pays. Il faut que l'Union européenne soit un progrès pour tout le monde et non pas le libre-échange généralisé que nous avons au service de la finance. Ça, il faut rompre. Donc, c'est notre plan A. Mais par contre, pour qu'il y ait une chance de réussir, il est bien entendu qu'il faut un plan B. Et le plan B, c'est des mesures unilatérales de rupture qui peuvent effectivement aller jusqu'à la sortie.
On sent que ça vous rend très colère d'avoir expliqué jour après jour.
Je suis très passionné, c'est autre chose.
Que, j'entends bien, mais que le programme du Front National, malgré tout sa convergence, c'est pas votre programme. Est-ce qu'il y a un effort de pédagogie que vous faites, ne soit toujours pas passé.
Non, mais attendez. J'ai lutté toute ma vie contre le danger fasciste. D'accord? Je lutte contre la financiarisation de l'économie. Donc, nous assimiler quelque part à ceux qui sont nos principaux adversaires, oui, je peux vous dire que quelque part, je ne suis pas en colère, mais comprenez donc que ça touche le plus profond de ce que nous sommes. Voilà.
Le fascisme pourrait être qu'à droite, à l'extrême droite? Est-ce qu'il pourrait y avoir
excusez-moi, c'est une caractérisation politique, le fascisme. On peut avoir des dictatures, il y en a eu effectivement pendant tout le XXe siècle, on a eu des dictatures à l'Est, etc. On va pas d'un communisme bureaucratisé qui n'était pas notre modèle. Mais en l'occurrence, le fascisme, c'est une définition politique, qui est celle qui est du côté de l'extrême droite et qui, historiquement, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas nouveau, emprunte à certains moments des mots, du vocabulaire pour mieux camoufler son projet, y compris à la gauche, pour mieux tromper aussi les travailleurs, comme le fait Mme Le Pen, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que son projet ne sera en aucun cas un plus pour les couches populaires de ce pays. Donc, elle renoue finalement avec un classique, quoi.
Alors peut-être on va parler de
Marine Le Pen.
De Marine Le Pen. On va continuer.
On continue, allons-y
gaiement avec ce qu'elle a dit quand même, Véronique.
On va y parler. Donc vous le mentionnez, elle profite de son immunité européenne pour ne pas répondre aux convocations des juges, et ce faisant également, elle monte désormais à la tribune pour menacer à la fois les hauts fonctionnaires et les magistrats. C'était la semaine passée à Nantes, on l'écoute.
Dire publiquement, ici, aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants, ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus, ou des cabales d'État, de se garder de participer à de telles dérives.
Comment vous expliquez qu'avec un tel discours, tellement antidémocratique, Marine Le Pen arrive à faire mieux que vous dans cette course à la présidentielle?
Je voudrais juste dire que voilà ce qui caractérise Mme Le Pen.
C'est vrai,
pas la sortie d'euros, c'est ça qui caractérise Mme Le Pen. Parce qu'elle annonce l'épuration des fonctionnaires qui ne seraient pas
d'accord. Est-ce que c'est une façon de dire attention, j'arrive?
Ah oui, bien sûr.
C'est le vrai visage du FN, il est là.
Oui. Et vous savez ce que je pense de Mme Le Pen depuis janvier? C'est que, parce que vous avez remarqué que son discours a évolué quand même, elle a remis les questions de discrimination raciale au devant de son discours. C'est que je pense qu'elle a enregistré que M. Trump avait gagné sur le même type de discours. Et elle pense maintenant qu'elle peut gagner là-dessus, en l'assumant.
Vous pensez que c'est un fait exprès?
Ah oui, je pense que c'est très calculé chez Mme Le Pen, qu'elle est en train de graduer progressivement et de révéler, parce qu'elle l'a jamais changé.
On peut dire qu'elle a fait très fort. Alors.
Oui, mais je pense que c'est volontaire et qu'elle observe si justement, quelque part, comment réagit, on va dire, la classe médiatique et politique. Alors, par exemple, M. Hollande, qui dans son interview du Monde, ne dit pas que c'est ça le danger, mais que c'est la question de la sortie de l'euro et de la problématique de l'Europe. Donc, je crois qu'elle est en train de tester. Et Mme Le Pen, là, révèle son vrai caractère où il y a une espèce de penchant totalitaire. Parce que quand vous commencez à épurer les fonctionnaires, vous ne savez jamais où ça arrive, hein.
On va regarder ce sondage OpinionWay, donc pour les échos sur les intentions de vote du premier tour. Marine Le Pen est à 26, Macron est à 25, François Fillon est à 20, Hamon est à 16 et Jean-Luc Mélenchon est à 10. Un petit peu au fond du trou, Jean-Luc Mélenchon. Lui qui a théorisé le dégagisme, pourrait-il en être victime?
Bon, alors le problème des sondages, je vous le dis pas, mais là, il y a un autre sondage IFOP aujourd'hui qui montre une progression chez Jean-Luc Mélenchon. Il y en a d'autres qui montent côte à côte. Enfin, bon, il y en a qui sont pas rectifiés, qui montent Jean-Luc très haut. Donc, très franchement, je pense que les sondages aujourd'hui, je vais vous dire le truc, c'est que je pense que les sondages aujourd'hui ne comprennent pas la situation politique. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Quand vous parlez avec les professionnels, ils disent nous avons le plus grand mal à comprendre. Pourquoi? Parce que par contre, là, il y a quelque chose qu'on suit dans tous les sondages, c'est que vous avez quasiment la moitié de la population qui est totalement incertaine de son choix.
45%.
Donc, voilà, qui ne sait pas si elle ira voter. Il faut dire que vu le paysage,
qui
on peut un peu les comprendre.
Dans ces...
Et ben justement, c'est pas Jean-Luc Mélenchon le plus fragile, parce que dans tout, par contre, les sondages, ouais, vous avez, c'est avec malheureusement Madame Le Pen, celui qui est le plus sûr de son électorat, contrairement à Monsieur Macron, par exemple, ouais, ou même à Benoît Hamon, qui ont des électorats très fragilisés. Donc moi, c'est plutôt ça que je regarde. Je pense que ça reflète, ça
ne reflète. Oui, pardon, excuse-moi.
Mais je vous en prie, je pense que on serait vu sur un autre sondage il y a 3 jours, on aurait plutôt parlé de la progression de Jean-Luc Mélenchon. Là, vous me parlez. Donc, je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut s'accrocher. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est par exemple combien il y aura de gens dans la rue le 18 mars.
On pourrait s'accrocher. Ça, en regardant ce sondage, on pourrait se dire que si vous aviez uni vos forces avec Jean-Luc Mélenchon, eh bien, vous seriez à 26, c'est-à-dire au même niveau que Marine Le Pen.
Avec Benoît Hamon, vous voulez dire.
Qu'est-ce que j'ai dit ? Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, d'accord, bien sûr, vous seriez à 26, au même étiage, oui, c'est ça, que Marine Le Pen. Ouais. Vous seriez à 26. Ouais. Vous dites pas, mais on a raté un truc.
Je pense
là,
que ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Non, je pense que ça ne fonctionne
j'entends
pas comme
bien,
ça.
J'entends bien, mais c'est peut-être un peu primaire.
Non, c'est pas primaire, mais c'est les questions qu'on nous pose partout. Bah, mais
oui,
je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça. C'est que, par exemple, il y a un sondage qui montre que Benoît Hamon a un électorat très fragilisé, que la majorité de son électorat songe à aller vers M. Macron. D'accord. Donc, imaginez deux secondes cette partie de son électorat qui est incertaine. Imaginez que les deux se lient. Qu'est-ce que fera cette partie-là ? Eh bien, il ira vers M. Macron. Donc, en réalité, M. Hamon, il souffre du. C'est pour ça qu'il y a une instabilité. C'est pour ça que finalement, quelque part, il a refusé d'envisager les garanties que nous demandions, qui étaient des garanties prouvant finalement qu'il n'était pas le candidat du Parti socialiste des 5 ans passés. Il est au milieu du guet. C'est-à-dire qu'il est, je ne remets pas du tout en question sa sincérité sur le fait d'être un frondeur, sur le fait de remettre en question la politique qui s'est posée depuis 5 ans, mais il le fait avec les mêmes hommes. Il suffit de voir son équipe de campagne, avec les mêmes députés qui vont être investis, et donc, quelque part, le PS le rattrape. Bon. Et nous, on ne pouvait pas. Vous pouvez comprendre que nous, ça fait des années que nous construisons quelque chose de cohérent, un programme.
Une cabane à côté du PS,
mine de rien, si on s'était, par exemple, si on s'était parlé en 2012, dans les mêmes sondages, Jean-Luc Mélenchon était environ à 6%. Aujourd'hui, on démarre une campagne qui a bien du mal à démarrer, puisque moi, je pense qu'elle va se faire, en fait, dans les 2 mois qui restent, où Jean-Luc est à, sur les sondages, entre 11 et 13%. Donc, il était hors de question de dilapider, je veux dire, cet acquis qui, nous continuons à le penser, peut nous amener au second tour avec quelque chose qui serait illusoire.
Pour le moment,
l'addition des deux fait que très vraisemblablement vous auriez plutôt un départ d'électeurs ailleurs, et vous auriez surtout beaucoup d'électeurs qui finalement n'iraient pas voter, se diraient mais on comprend pas, ils ont été, ça fait 5 ans qu'ils s'opposent à ce gouvernement et finalement ils se rallient, parce que c'était ça la seule solution que présentait Benoît Hamon, il présentait pas d'autre solution, ils se rallient derrière le candidat qui représente le parti contre lequel il s'est opposé. Je veux dire, il faut à un moment donné
il reste moins de 50 jours
et bien justement,
le ticket d'entrée à plus de 20%, vous êtes entre, disons, allez, 10 et 13, 13,5. Comment vous faites pour accéder au second tour ? Est-ce que votre marge du 18 mars suffira à motiver 10% d'électeurs en plus pour arriver au second tour de cette présidentielle ?
Nous parions sur le fait que le peuple est plus politique et intelligent parfois que ses élites.
Ouais, alors là, il faudrait une...
Mais non, je le crois sincèrement. Vous savez, rappelez-vous que lors du référendum du traité constitutionnel européen, tout le monde nous annonçait
tout peut basculer
sans problème du oui, et qu'il y a eu un débat citoyen dans tout le pays pendant plusieurs mois, et que ça a inversé le résultat. Donc nous pensons que la même chose peut se produire en 2 mois. J'espère, avec l'aide de médias qui
incluent tous les candidats... Dites-nous en quelques mots en quoi cette manif du 18 mars pour la 6e République peut motiver un maximum de Français à rejoindre la France insoumise.
Parce qu'elle est la solution pacifique au problème qui nous est aujourd'hui posé d'une République qui est à bout de souffle, d'un point sur le plan démocratique, sur le plan social, sur le plan même, j'allais dire, de la vertu tout simplement, et que proposer une 6e République par la constituante, c'est-à-dire par et pour le peuple, qui propose aussi un programme de rupture basé sur la question du partage des richesses, qu'enfin on a récupéré. En gros, c'est 150 milliards qui, chaque année, depuis 30 ans, sont captés par des profits non investis. Non investis. C'est le fait que parier sur la transition énergétique, ce qui passe par le fait que de ne pas recourir au tout marché pour résoudre les questions de l'écologie, mais au contraire, investir de l'argent. Parier sur, par exemple, le développement de l'économie maritime. Parier sur un indépendantisme français au service de la paix. Nous pensons que si nous avons enfin le temps de pouvoir l'expliquer et non pas seulement de parler de Madame Le Pen ou de Monsieur Macron ou des affres de Monsieur Fillon, nous pensons que nous pouvons convaincre.
Est-ce que d'abord, on a vu que Nathalie Arthaud, Dupont-Aignan avaient leur parrainage. Vous en êtes où, vous? Vous êtes sûr quasiment de les avoir, vos 500 signatures?
Oui. Mais c'est dur. Madame Arthaud, ils ont Hello Lutte Ouvrière, ça fait des années, ils sont très rodés, ils ont quasiment leurs élus figés. Non, j'ai pas dit ça, non, c'est pas ça. Ils sont dans les luttes, etc. Mais ils ont un travail très construit. Nous, on est une force nouvelle. On le fait en plus avec, pour l'instant en tout cas, parce que le Parti communiste a annoncé, même s'il y a des communistes qui ont déjà donné leur parrainage, mais a annoncé qu'ils gelaient jusqu'au 13. On sait pas trop pourquoi, mais enfin, puisqu'en même temps, Pierre Laurent soutient Jean-Luc, donc j'avoue qu'on comprend pas trop pourquoi c'est fait, mais enfin, jusqu'au 13, ils attendent. Quelque part, on se débrouille nous-mêmes, mais ça avance.
Et vous avez, dernière question, un ex-maire communiste de Seine-Saint-Denis, hein, Patrick Braouzec, appelle à voter Emmanuel Macron. Il dit que c'est le seul rempart contre le Front National. Petite réaction, parce que j'imagine que bon...
Ouais. Je pense que c'est le.
Il a fait partie du Front de gauche.
Voilà, c'est le symptôme de la décomposition en composition dont je vous parlais.
Oui, au début.
Voilà, et je pense que malheureusement, Patrick, certainement aux États-Unis, aurait appelé à voter pour... Madame Clinton plutôt que Monsieur Sanders pour faire barrage à Monsieur Trump, manque de chance, c'était Monsieur Sanders qui aurait pu lui envoyer.
Peut-être qu'il pense que ce qui est plus important, c'est de gouverner que de plutôt
mais
d'être en opposition.
Mais gouverner sur le programme économique de Monsieur Macron, c'est exactement produire la politique contre laquelle Monsieur Braouzec s'est opposé avec nous pendant 5 ans. Donc c'est quand même assez incompréhensible.
Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci d'avoir été notre invité avec Véronique. Merci Véronique Rigolet. Et merci également à Pauline Hellmann qui a préparé cette émission. Et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite. Priorité.